France Culture.
Les nuits de France Culture.
Je rapporte ici ce que j'ai vécu. L'horreur n'y est pas gigantesque. Il n'y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L'horreur y est obscurité, manque absolu de repères, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n'aura été que la revendication forcenée, et presque toujours elle-même solitaire, de rester jusqu'au bout des hommes. Rester des hommes, voilà une tâche presque impossible dans les camps de concentration nazis. Des centaines, voire des milliers de récits de survivants ont paru après la libération, tous différents les uns des autres. Dans ces voix uniques et singulières, des traits communs persistent. L'horreur, la cruauté des SS, mais aussi la solidarité et l'humanité, seules armes des déportés face à la machine concentrationnaire vouée à les écraser. C'est pour cela qu'il y a une chose absolument essentielle, sans quoi on n'avait aucune chance de survivre. Le moral. Beaucoup des témoignages qui nous parviennent semblent indiquer que ce sont celles et ceux qui avaient une raison de se battre et de survivre, une famille, une foi, des convictions politiques, qui y arrivaient le mieux. Sans se rattacher à cette humanité qui est en nous, sans vouloir survivre pour quelque chose, même ceux qui arrivaient au camp avec un état physique optimal pouvaient être remportés par la mort en quelques semaines. C'est du moins ce que semble indiquer ce 12e épisode de la série « Le monde concentrationnaire » de Francis Crémieux, articulé autour de l'importance du moral. On y entend les témoignages de Pierre Dex, Yves Darié, Jean-Aimé Dolidier, Marie-Élisa Nordman, Marcel Paul, Lise Ricol et Pierre Sudreau. Une émission diffusée pour la première fois le 10 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, le moral. Entretien avec Pierre Dex, Yves Darié, Jean-Aimé Dolidier, Marie-Élisa Nordman, Marcel Paul, Lise Ricol et Pierre Sudreau.
Il en était de la résistance dans les camps de la mort, comme de la guerre en rase campagne, le facteur moral y avait une importance primordiale. Les directions clandestines de la résistance se sont toujours attachées à maintenir le moral, entre guillemets, et nous verrons comment. Nous demanderons d'abord à Marie-Élisa Nordman-Cohen de nous dire ce qu'a été l'arrivée à Auschwitz d'un groupe de Françaises au début 43. Et l'on verra qu'en se démontrant à elles-mêmes qu'elles n'étaient pas vaincues, elles ont administré la preuve que la lutte n'était pas terminée.
Après une journée passée à Compiègne, nous sommes partis pour Auschwitz, où nous sommes arrivés le 27 janvier 1943 par un temps glacial. Le pays était couvert de neige. Et notre premier contact avec le camp à l'arrivée, ça a été de voir des femmes partir en rang au travail avec des loques rayées sur le dos, accompagnées de surveillants et de surveillantes SS et de chiens. Et ce premier contact nous a profondément glacés parce que nous nous sommes rendus compte, avant qu'on nous ait dit quoi que ce soit, que nous étions dans un camp où nos jours allaient être comptés. Et je pense que c'est ce sentiment général qui a fait que dès notre arrivée devant la porte du camp, d'une seule voix, nous nous sommes mis à chanter la Marseillaise. Et c'est un fait qui a été unique dans les annales du camp d'Auschwitz-Birkenau, dont on parlait encore plusieurs mois après, C'est une Française de ce convoi qui a osé chanter la Marseillaise en entrant dans le camp. Et il est certain que ces femmes étaient, dans leur très grande majorité, pleinement décidées à essayer de survivre à ce que voudrait faire de nous la Gestapo et les SS en nous envoyant à Birkenau.
Et combien étiez-vous dans ce convoi de femmes ?
Nous étions 230. Nous sommes aujourd'hui 48 survivantes.
Dans cette lutte contre la mort, les vieux tolards, les vieux bagnards avaient certainement plus de résistance que ceux qui avaient été arrêtés récemment. Je pense que c'est votre avis, Jean-Aimé Delidier.
D'ailleurs, il y a de nombreuses histoires qui illustrent ce fait. Les hommes qui ont le mieux tenu physiquement et qui ont survécu étaient ceux qui avaient fait leur pré-apprentissage de prisonniers en France pour la déportation. Il y a évidemment le moral qui comptait. L'exemple aussi de ces hommes qui avaient rendu des services pendant un temps aux nazis, qui avaient fini de plaire et qui étaient déportés accidentellement, qui n'avaient pas souffert et qui vivaient très peu de temps dans le camp de concentration. J'ai cet exemple typique qui m'est arrivé à Neuengamme. Dans un convoi qui a suivi le mien, sont arrivés 5 ou 6 guides savoyards qui avaient passé toute la dernière partie de leur vie à assurer le passage sur la Suisse contre de l'argent, en particulier pour les mouvements juifs, qui sont arrivés des hommes en pleine forme et qui 3 semaines après étaient morts. Il y avait non seulement le moral qui tenait pas, mais il y avait aussi la qualité physique qui ne pouvait pas s'adapter du tout au rien du jour au lendemain.
Il n'y a pas de recette pour arracher un homme à la mort. Il y a la volonté chez cet homme de lutter. Et s'il se sent trop faible, il trouvera à ses côtés ses camarades de résistance qui l'aideront. Malgré cela, Pierre Dex nous le rappelle, la mortalité quotidienne dans les camps était terrible.
La mort journalière pour ce camp était de l'ordre d'une 15aine ou d'une 20aine de détenus. C'était dans l'ordre, du fait de brutalité de capot, de brutalité de SS, ou bien par maladie, parce qu'il y a aussi cette chose que nous avons connue là-bas, qui étaient des formes extrêmement brutales de maladies qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Phtisie galopante, des diphtériques qui emportaient les gens en 2-3 jours, ce qui contribuait à créer une espèce d'état de panique, comme si nous étions revenus d'une centaine d'années en arrière. Le premier travail d'organisation qu'on a fait, ça a été pour essayer de faire comprendre ce que c'était qu'un matricule à 5 chiffres quand il est écrit en allemand, parce qu'il y a des hommes qui sont morts de n'avoir pas pu se mettre dans la tête leur matricule en allemand. Ça a été une chose qui ne pardonnait pas parce qu'ils ne répondaient pas. Au cours des premiers jours, les gens qui ne pouvaient pas tenir ou qui n'ont pas tenu, les malades et les autres, ont disparu. Les gens qui se sont effondrés nerveusement aussi, enfin bon, il y avait une sélection impitoyable des gens. Bon, il y a des gens dont on peut dire vraiment qu'ils se sont laissés mourir devant ce qui leur était promis. Ça ressemble au suicide. Il y avait avec nous, par exemple, un homme que j'avais connu à Compiègne, qui était un maire socialiste d'une petite ville, je crois, de l'Aude. Absolument comme on imagine les socialistes du congrès de Tours, vous savez, avec la barbe, la belle chevelure soignée. En quarantaine, je ne l'ai pas reconnu d'abord, parce qu'évidemment il était rasé sur toutes les coutures. Et je me souviens toujours, j'ai vu ce vieil homme qui pleurait comme un gosse, en disant « ils m'ont fait ça, c'est pas possible ». On a essayé de le remonter, ça a duré deux jours, le lendemain matin, on l'a trouvé mort comme ça.
Après Pierre Dex de Mauthausen, Yves Dariet de Buchenwald.
Il faut plus tricher maintenant, 20 ans ont passé, on peut ne plus tricher avec cela, nous savons parfaitement. Mais enfin, il y en a fort peu de ceux-là qui sont revenus. Parce que moralement, je crois, il n'était pas destiné à tenir le coup. Il fallait une très grande force morale aussi pour tenir. Et il y a eu tout de même ce phénomène, il y a ceux qui ont basculé dans la résistance et qui se sont fait une âme de résistant. Il y a ceux qui n'ont rien compris, qui sont restés des raflets. La plupart sont morts, mais ils sont morts tout simplement, on ne les a pas tués. Ils sont morts de consomption, ils sont morts parce que la cruauté du camp était une chose tellement invraisemblable pour eux que, n'ayant rien à dire, rien à faire, ils se sont laissés mourir.
Vous voulez dire qu'au fond, ils ne répondaient pas à la question « Pourquoi nous combattons ?» parce qu'ils n'avaient pas combattu.
Oui.
Vous êtes référencé dans un certain nombre d'ouvrages écrits par d'anciens concentrationnaires comme un des hommes qui avait maintenu un certain niveau culturel dans les camps. Vous étiez un joueur de clarinette. Est-ce que vous vous êtes consacré aux répétitions ?
Enfin,
vous
avez vraiment... On y consacrait fort peu de temps. Seulement ce temps que nous ajoutions au temps, si j'ose dire. Parce qu'on peut ajouter du temps au temps, puisque je vivais la même vie que les autres.
Comment vous avez eu une clarinette, par exemple ?
Vous savez qu'un camp de concentration, c'était une espèce d'immense réservoir de vêtements de toutes sortes, de bijoux. Les SS pillaient avec beaucoup de facilité. Alors, on trouvait tous les instruments, on trouvait de tout.
Alors, on la volait, cette clarinette.
Ah oui, quand on arrêtait le gars, on lui prenait tout ce qu'il y avait chez lui. Et s'il y avait une clarinette, il y avait une clarinette. S'il y avait un piano, il y avait un piano. En général, les pianos se terminaient dans ces sortes de salons, vous savez, là, les endroits où les soldats allemands, à cette époque, aimaient chanter le soir.
Est-ce que la police intérieure et les SS toléraient l'existence d'un orchestre de jazz?
Non seulement elles toléraient, mais je les soupçonne d'avoir favorisé cette activité. Oui, mais enfin, il y avait quand même des protections. C'est une société, le camp de concentration. On peut arriver à faire des choses illégales, comme n'importe qui peut arriver à frauder le fisc.
Quand vous prépariez avec vos camarades une représentation ou un concert de jazz, d'une part, votre morale à vous était consolidée, mais aussi vous aviez la sensation que vous aidiez à la consolidation du moral de vos camarades.
C'était de l'opération préméditée et les premières expériences ont été stupéfiantes pour nous. Il est évident que nous ne retrouverons jamais ni le climat, ni cette perméabilité. C'est extraordinaire ce qui s'est passé sur le plan culturel. Il y avait un consentement chez les détenus, tout à coup une prise de conscience de ce que peut être l'esprit lorsqu'on l'amène jusqu'aux conférences, jusqu'à la poésie, jusqu'à des choses construites. On est tout à coup stupéfait de saisir ce contact, cette volonté farouche qu'a l'homme de vouloir vivre par son esprit. Ça a été d'ailleurs un des plus grands drames pour nous tous lorsque nous sommes revenus, c'est que cette expérience de l'esprit que nous avons vécue, nous n'avons plus retrouvé l'équivalent dans la vie ordinaire. Vous savez que ça allait très loin parce que nous avions finalement pu organiser, avec beaucoup de complicité, un véritable groupe de loisirs. Que vous demandiez à Maurice Hewitt, qui avait un quatuor assez prestigieux, puisqu'il avait Pekerski. Il y avait des gens extraordinaires qui jouaient des quatuors de Beethoven, enfin, le soir, quelques fois, enfin, ça s'est produit trois fois, il ne faut pas exagérer. Et j'ai donné deux concerts de jazz avec un orchestre de jazz international qui ne comportait pas moins de 35 musiciens.
Dans les camps allemands comme dans les prisons françaises, il y a des hommes qui ont appris à lire et à écrire. L'activité culturelle était générale, chez les hommes comme chez les femmes. Lise Ricol, qui, après avoir été déportée à Ravensbrück, a été transférée dans une usine proche de Leipzig, nous donne maintenant son témoignage.
Nous avons organisé, je dirais, une vie culturelle intensive dans notre bloc. Par exemple, c'était, je crois, le deuxième dimanche après notre arrivée à Leipzig. Nous avons organisé une représentation théâtrale dans le bloc des Françaises. Et ce jour-là, il y avait 1000 femmes entassées dans le bloc pour assister à cette représentation des Françaises. Et c'était nous, les nourrices de Rennes, qui pouvions mettre debout cette représentation parce que nous avions préparé pour le dernier Noël que nous avions passé à Rennes deux actes de Figaro. Après cela, nous avons par exemple fêté les Catherinettes. Toutes nos jeunes ont eu leur chapeau, qui ont été faits avec les copeaux de fer de l'usine qui étaient ramenés. Vous savez, ces copeaux qui prennent toutes ces couleurs rouges, bleues, jaunes. Quand le bloc des Françaises organisait des choses de ce genre, alors il y avait de tous les blocs des femmes qui venaient. Et cela a créé d'ailleurs un stimulant. Et ensuite, il y a eu la même volonté de faire quelque chose et de réagir contre ce système de dégradation humaine du camp de concentration en faisant revivre les traditions du pays, en faisant revivre la culture. Par exemple, à l'occasion de l'anniversaire de la fusillade de Chateaubriand et de Bordeaux, après le couvre-feu, quand les SS étaient partis, alors nous avons Régina Lowe qui a parlé, qui a rappelé le souvenir. Son frère était fusillé parmi ceux de Bordeaux. Il y a les catholiques qui ont fait une messe commune pour pouvoir prier à la mémoire de ceux qui avaient été fusillés. Nous avons toujours essayé, vous savez, de trouver quelque chose pour que les femmes se maintiennent comme femmes. On n'avait qu'une robe et une chemise. Pour pouvoir rester femme, pour pouvoir rester quelqu'un, il faut aussi la propreté. Et nous avions donné, par exemple, la consigne, chaque semaine, il faut laver la robe. Alors on descendait, on se dépouillait de sa robe, de sa chemise. D'abord, on lavait la robe, on la faisait sécher sur les bouches d'aération. On se promenait en chemise, on faisait sécher la robe. Après, c'était le tour de la chemise. Et quand il y avait des femmes qui avaient perdu le moral et qui se laissaient aller, qui ne voulaient plus laver ses effets, qui en avaient assez de tout, qui perdaient confiance, on prenait de force leur robe, leur chemise pour leur laver, pour qu'elles restent propres.
Tous pour un pour tous. Et toujours, tous contre la chiourme, même lorsque cette chiourme se présente sous l'aspect de Meister allemand, c'est-à-dire de contremaître dans une usine.
Vous savez, les Allemands essayaient de pouvoir obtenir un travail meilleur des concentrationnaires. Aussi avec des attrape-nigauds, par exemple, ils distribuaient des Reichsmark, c'était une monnaie intérieure. Alors ils distribuaient cela comme prime. Je suppose que ça devait être également pour les travailleurs civils. Alors nous avons voté, toutes, à l'unanimité, que pas un seul de ces billets ne serait accepté par les Françaises. Bien sûr, le droit d'achat, c'était des choses souvent ridicules. Il y avait parfois un peu, vous savez, ces poissons salés, la roulée, des bijoux de verroterie.
C'est ça.
Des choses de ce genre. Il y avait quelquefois aussi un peu de salade. Mais malgré tout, le fait de refuser même le moindre supplément de nourriture, c'était vraiment un geste de courage. Et c'était en même temps, par rapport aux Allemands, un défi. Et c'est ainsi d'ailleurs que les Allemands ont pris la chose. Quand à la fin de la semaine, les Allemands sont venus et ont voulu remettre les billets à nos camarades qui systématiquement toutes ont refusé, alors il y en a qui les ont battus pour essayer de les obliger à prendre ces billets. Et voyez-vous, jusqu'au bout, nos Françaises ont toujours refusé d'accepter ces primes.
Par la résistance, les détenus se survivaient, mais en se survivant, ils structuraient la résistance. C'est ce que Pierre Dex nous explique très bien.
La résistance, c'était d'abord de faire vivre des gens, d'organiser le ravitaillement, tout un travail d'intendance, d'écriture, d'administration, avec tous les ennuis que cela peut comporter, toute la monotonie. Mais c'est sur ce fond-là qu'il pouvait y avoir vraiment, peut-être, ce qui est contenu sous le terme résistance.
Donc, nous ne pipons pas les dés en intitulant une émission « La résistance française dans les camps ». Elle a existé, elle s'est battue.
Absolument. Quand, après la libération, nous avons fait nos comptes, rendu en quelque sorte compte de notre gestion des intérêts français à Mauthausen, pour schématiser, on peut dire que nous sommes trouvés dans le problème suivant. Qu'avaient été déportés à Mauthausen 10 000 Français. Que sur ces 10 000 Français, nous en avions ramené grosso modo 3 000-3 500 vivants. Que cette proportion de 35% de survivants, compte tenu du délai de déportation, n'avait été atteinte par aucune autre nationalité. Et d'autre part, que sur ces 3 500 Français vivants qui revenaient en France, la proportion de résistants devait être considérable.
Monsieur Marcel Paul, en dehors de la victoire sur la saleté, de la victoire sur la peur, de la victoire sur la faim, quelles autres victoires peut-on mettre à l'actif de la résistance morale dans les camps ?
Oh, la victoire de l'information, l'information à tout le monde, le communiqué diffusé. Quand nous sommes arrivés, le communiqué était une espèce de chose très secrète. Il fallait que ce soit secret, mais enfin réservé seulement à quelques résistants bien placés. Nous avons développé la conception du communiqué passé de bouche à bouche à tout le monde. Pas de papier, mais enfin tout le monde pratiquement informé. Ça a changé déjà considérablement le moral. La conception de la solidarité pour tout le monde, la conception de l'intervention pour tout le monde, pour un chenou, c'est un billet de repos, les 2-3 jours qui permettaient à un camarade exténué de souffler, qu'il fallait arracher au revire par l'appareil clandestin. L'admission au revire pour tout le monde indistinctement, tout cela avait déterminé cette conception que nous étions un bloc, que nous étions solidaires, que nous étions des frères de combat. Nous avions des vues différentes sur d'autres problèmes, mais le collectif français était effectivement uni comme les doigts de la main, et cet exemple a été contagieux pour une large part, je l'estime, près des autres collectifs.
Il est certain que la contagion de la force morale du groupe des Français a une très grande importance dans les camps et notamment à Buchenwald. Mais à Auschwitz-Birkenau, Marie-Elisa Nordmann-Cohen, dans ces conditions tellement plus dures, comment le moral pouvait-il tenir ?
Pour moi, personnellement, j'étais convaincue que les nazis perdraient la guerre. Et ce qui pouvait le mieux contribuer à ce que j'ai bon moral, c'était ce que l'on devinait qui se passait sur le front de l'Est depuis notre arrivée au camp. Car nous sommes arrivés à Birkenau le 27 janvier 1943, c'est-à-dire en pleine fin de la bataille de Stalingrad. Donc nous voulions tenir le coup parce que nous voulions rentrer. Il y a un autre sentiment qui a joué beaucoup, c'est que quand nous avons vu ce qui se passait à Birkenau, nous voulions rentrer pour le dire, pour le crier au monde. Je crois que ça a joué un rôle très important pour beaucoup d'entre nous. Enfin, nous avions les unes et les autres des enfants pour lesquels nous voulions revenir. Et cela a joué un rôle considérable. Et d'une façon générale, je crois que les femmes qui avaient une certaine idéologie, certaines croyances, sont celles qui, moralement, ont le mieux tenu le coup, aussi bien à Birkenau que à Ravensbrück. Mais dans celles de mes camarades qui sont mortes, je connais des femmes qui avaient tous ces critères. Il n'a pas empêché qu'elles sont mortes dans les 5 ou 6 premières semaines. Évidemment, il a fallu un certain nombre de hasards heureux, une certaine résistance physique qui a aidé. Mais dès que l'on craquait sur le point de la résistance morale, dès que l'une disait « je suis foutue, je ne reviendrai pas », eh bien, dans les 2 jours, elle mourait.
Monsieur Pierre Sudreau, je vous demanderai de conclure cette émission sur le moral parce que, comme vos camarades, vous avez vu que ceux qui voulaient vivre, vivaient, et que même ceux qui étaient torturés par la Gestapo, lorsque, appelés par la police du camp, ils étaient sommés de livrer les éléments de la vie clandestine qu'ils connaissaient, même cela, en ne parlant pas, renforçait le moral de l'ensemble des détenus du camp.
À la fin, les SS consommaient, je dis bien consommaient entre guillemets, entre 50 et 200 prisonniers par jour, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient, qu'ils appelaient, qu'ils convoquaient, qu'ils faisaient disparaître environ 200 prisonniers par jour. Ils étaient perpétuellement à la recherche de responsables. À chaque fois que quelqu'un pouvait être soupçonné d'avoir un rôle clandestin, il était arrêté. Et le fait admirable, c'est que dans cette tour de Babel, à ma connaissance, pas un prisonnier qui était généralement torturé et tué n'a parlé et n'a donné le nom d'une filière permettant aux SS de démanteler l'organisation clandestine. Je dois dire, rétrospectivement, combien j'admire ces hommes qui n'ont pas trahi leurs camarades.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant Gilbert Maurice Duprez.
C'était Le Moral, le 12e de 27 épisodes de la série Le Monde Concentrationnaire de Francis Crémieux, avec les témoignages de Pierre Dex, Yves Darrier, Jean-Aimé Dolidier, Marie-Elisa Nordman, Marcel Paul, Lise Ricolle et Pierre Sudreau. Première diffusion le 10 mai 1965 sur France Culture. À suivre.